Venu d'ailleurs. C'est un podcast pensé pour vous faire découvrir des personnalités, actrices et acteurs de la vie sportive angevine, et qui possèdent toutes et tous ce très beau point commun. Elles ou ils sont nés dans un pays qui n'est pas la France, dans un ailleurs qui déclenche une curiosité, comme une invitation au voyage, un voyage humain. Alors nous allons les accueillir et les questionner, sur leur terre natale, sur leur rencontre avec le sport là-bas, sur le chemin qui les a conduits jusqu'ici, à Angers, et sur le rôle qu'ils ou elles occupent aujourd'hui dans le paysage sportif local.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Venu d'ailleurs, l'émission que vous écoutez à votre guise, un vendredi sur deux à 9h10 sur Radio G, en replay sur radio-g.fr ou en podcast sur le site de l'association La Dalle Angevine, qui aime vous parler de sport à sa façon. Alors on accueille aujourd'hui dans le studio Albrecht Zontak, 62 ans, docteur en sociologie, professeur à l'ESCA à Angers et qui travaille notamment sur la place du football dans le processus d'intégration européenne. Bonjour Albrecht et bienvenue dans Venu d'ailleurs.
Bonjour Valentin.
Alors Albrecht, première question rituelle de cette émission, dans quel pays, dans quelle ville vous êtes né?
Alors je suis né à Esslingen am Neckar, c'est une ville industrielle mais très belle avec une substance architecturale médiévale remarquable et qui se trouve accolée à Stuttgart, donc c'est dans le sud-ouest de l'Allemagne, dans le Baden-Württemberg, qui est frontalier avec la France et où, disons, les connaissances de la langue française sont encore un tout petit peu plus développées que dans l'Est ou dans le Nord du pays.
Ça veut dire que dès votre enfance, il y avait la proximité avec la France, la présence de la France vous a influencé et c'était quelque chose de prégnant?
Alors la proximité elle-même, elle n'était même pas décisive, mais la densité du réseau de jumelage né dans l'après-guerre et surtout dans les années 60, a fait que tout naturellement, j'ai fait un échange scolaire avec notre ville partenaire, qui était Vienne, dans l'Isère. Et ça m'a vraiment marqué, et je peux dire aujourd'hui, avec le recul, de 45 ans, mine de rien, je peux dire que ça a effectivement changé ma vie.
Alors ça, c'est un premier souvenir, un premier souvenir de déplacement. C'est la première fois que vous quittiez votre pays pour aller ailleurs?
Oui, et à l'époque, donc c'était au milieu des années 1970, on n'avait pas de téléphone portable. On était parti deux semaines et on était vraiment parti. Et on était accueillis donc chacun dans une famille française, comme il faut, pour un jumelage comme ça. Et du coup, on était vraiment immergés et j'y suis retourné l'année d'après. Parce qu'on avait tissé des liens d'amitié et ça m'a donné très très envie de poursuivre mon apprentissage du français et finalement j'ai même opté pour des études plus tard à l'université.
Vous dites que ça a changé votre vie, pour quelles raisons exactement? Quelle sidération, quelle chose vous avez croisé là-bas à ce moment-là qui a décidé de choses pour plus tard?
Alors c'est très simple, c'est la langue française. Je suis tombé raide amoureux de la langue française. Je trouve qu'elle est très belle. Je travaille la quasi-totalité de mon temps en anglais. Mais j'aime beaucoup le français. J'avais envie de perfectionner ça. J'avais envie de lire, de comprendre, de plonger dans cette culture. Je l'ai d'abord fait par la littérature et la linguistique pendant mes études universitaires au début des années 80. Et après, je me suis tourné vers la sociologie parce que cette société et son histoire, ça m'a fasciné aussi.
Donc tout part de la langue, du parler, de la sonorité, des mots. Qu'est-ce qui vous a attiré? Quel charme vous avez trouvé à cette langue?
Alors j'ai trouvé beaucoup de charme à la sonorité, vous avez bien identifié ça. Mais il y a aussi beaucoup de lectures. Je trouve que le français dans l'écrit, c'est très beau aussi. Non, c'est quelque chose qui s'est donné automatiquement. J'ai fait des études d'anglais et de français, donc les deux, et j'ai commencé par enseigner les deux, l'éducation, l'enseignement secondaire en Allemagne. Mais aujourd'hui, mon choix esthétique, il est vite fait. Hein. Le français il reste numéro un.
Oui, donc ça passe aussi par la lecture, la littérature, parce que des auteurs ont fait de cette langue.
Oui, et par la manière dont elle permet de penser un petit peu en dehors du mainstream anglo-saxon qui domine tellement les sciences humaines et sociales. Et en France, on a cette façon d'aborder les sujets de manière légèrement différente, et je pense que la langue y est pour beaucoup. Et puis, la langue française, dans le quotidien aussi, dans le quotidien à l'école, dans la vie sociale, etc., elle est propice à une conversation enlevée, à des petites blagues, des clins d'œil, des jeux de mots en permanence. Et je pense que ça contribue, en tout cas c'est mon expérience personnelle, ça contribue aussi à une certaine sérénité, malgré le caractère morose et maussade qu'on attribue souvent aux Français. Je ne sais pas où ces gens habitent. Moi, j'habite dans un quotidien serein et sympa.
Ouais, vous avez la possibilité d'avoir des éléments de comparaison justement sur cette langue, comme vous en maîtrisez d'autres, vous en avez étudié d'autres, et vous la voyez comme aussi, c'est ce que vous avez l'air de dire, un espace de liberté aussi, globalement.
Oui, ça marque beaucoup la manière dont les gens coexistent dans une société. Alors, j'ai aucun préjugé négatif contre ma langue natale. J'ai été bercé dans un dialecte que j'aime toujours beaucoup, qu'on appelle Swab. Et j'aime beaucoup la langue allemande aussi pour sa capacité à faire des mots à rallonge qui, malgré tout, veulent dire quelque chose et qui sont, je vous l'assure, prononçables. Donc, c'est une langue géniale aussi à sa façon. Je suis vraiment très heureux d'avoir ces deux cultures en moi. C'est la binationalité heureuse, comme dirait mon ami Daniel Riolo.
Oui, c'est deux choses qui cohabitent, qui coexistent joyeusement, bien sûr, qui se complètent. On va revenir un petit peu à votre lieu natal, à cette terre un peu d'enfance. C'est quoi vos souvenirs un peu là-bas, les premiers souvenirs, les odeurs, les choses un petit peu qui restent?
Alors, comme c'est un podcast qui est censé parler de sport et pas seulement de littérature,
on va y venir.
Donc j'ai envie de dire ce qui est étonnant, et c'est là que ça devient intéressant. Ce qui est étonnant, c'est quelqu'un qui est aussi assimilé à la culture française que je le suis, que je me sens, soit autant marqué par ses souvenirs d'enfance et d'adolescence en matière de sport. C'est quand même étonnant que je me sens français de A à Z, que j'ai obtenu la nationalité avec un grand bonheur en même temps, et que dès qu'il y a un événement comme l'Euro, j'ai quand même un cœur allemand qui bat quand je vois la Nationalmannschaft, quand je sens la ferveur toute particulière que suscite le football en Allemagne. Je me souviens forcément de ma socialisation en tant qu'amateur du sport et surtout du football. Et celle-ci, elle s'est déroulée dans un contexte spécifique et ce contexte marque à vie. Donc oui, pour le foot, je suis très allemand, c'est étonnant.
C'est quoi votre contexte footballistique initial d'enfant? C'est un club, c'est un décor, c'est un espace où vous avez découvert le jeu, le lien aux autres?
Alors, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai eu la chance donc, de grandir à côté d'une grande ville, Stuttgart, qui traditionnellement est une grande métropole de sport et qui possède un stade énorme, un stade qui était encore rénové et élargi pour la Coupe du Monde 1974. Et c'est donc là que j'ai été amené par mon grand frère, petite initiation super classique du fan de foot.
La première expérience dans le grand stade.
Ah oui, c'est
avec le grand frère.
C'était super marquant.
Et à quel âge?
Donc ça devait être 11 ans par là. Voilà. Et puis sinon, il y a eu le club de foot de mon quartier, en gros, hein, de la partie de la ville, qui m'a aussi marqué, où je suis resté une bonne vingtaine d'années, en fait, entre 9 et 29 ans, avant d'aller en France.
Qu'est-ce qui vous a plu dans ce jeu? Qu'est-ce qui vous a captivé?
C'est dommage que le podcast soit limité à 45 minutes. Parce que
même pas à 25-30.
Ok, donc j'ai encore
pire. On fera pas d'épisode 2 pour vous spécifique.
Non, le football est un jeu à part. Ça, c'est quelque chose qui s'est confirmé, une intuition qui s'est confirmée plus tard lors des recherches menées. recherche en sciences humaines et sociales sur le football. On y reviendra. Le football est un jeu à part dans la mesure où c'est quand même le plus imprévisible de tous les jeux d'équipe. Il y a cette rareté des buts, déjà, pour commencer, et surtout aussi la rareté des actions vraiment bien menées, vraiment réussies, quand tout se passe comme on aurait voulu le faire. C'est hyper rare. Donc, l'état normal du joueur et du spectateur est la déception permanente. C'est un jeu qui nécessite une tolérance à la frustration juste hallucinante. Et le bruit du stade qui est le plus beau, c'est certainement pas l'éruption des cris après un but. Le cri du stade qui est le plus fréquent et le plus typique pour le foot, c'est ce gémissement de déception. Mais comment a-t-il pu rater cette occasion ? Ma grand-mère l'aurait mis dedans. Et ce grognement qu'on entend quand il y a encore une passe ratée, je trouve ça phénoménal.
Oui, donc c'est une espèce de clameur collective. Ah, on a l'impression que chacun des 20 000 ou 40 000 personnes a dit la même chose, même mot, a eu même expression.
La même souffrance en même temps. C'est un jeu de l'échec, de la souffrance. Je trouve ça formidable. Et quand le but arrive, on est tellement reconnaissant. C'est magnifique. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un monument de littérature, Eduardo Galeano.
Ombre et Lumière.
Voilà, dans les années 90. Et je cite souvent la métaphore du mendiant dans le stade qui dit « Donne-moi une action réussie, s'il te plaît, je suis venu pour ça ». Donc, il y a beaucoup d'humour
mendiant
dans le foot.
Football, ouais. Hein,
il y a beaucoup d'humour dans le foot, beaucoup d'ironie, beaucoup de deuxième degré. J'aime beaucoup ça.
Oui, la belle action, le but, c'est un îlot et un îlot de bonheur. Il faut être patient pour ça, il faut l'attendre, il faut être capable de l'attendre. Ouais.
La souffrance mérite le but.
Super, donc c'est un regard aussi particulier sur le football qu'on aime entendre. On va revenir un petit peu à l'Allemagne, vers la France. Vous avez parlé un petit peu de vos études. Donc, quand est-ce que vous êtes venu en France concrètement? Vous avez fait toutes vos études en France, c'est ça?
Non, j'ai fait mes études en Allemagne. Je suis diplômé en Allemagne d'abord.
D'accord.
À l'université de Stuttgart, justement. Mais j'avais passé une année au Havre en tant qu'assistant de langue étrangère. C'était très sympathique. C'était avant l'avènement du programme Erasmus, donc on se débrouillait comme on pouvait pour faire une année à l'étranger. Et donc ça aussi, ça m'a beaucoup marqué, j'ai bien aimé. Et en 1991, je me suis installé en France pour l'amour, c'est aussi simple que ça. Et je ne dois pas être le seul à qui ça arrive, et dans l'autre sens, pareil. Et donc,
vous avez rencontré votre amoureuse en France, elle est française.
C'est ça, mon épouse est française. C'est toujours la même. Et depuis 91, on est mariés, on s'est installés en France, au Havre d'abord, et puis donc depuis un quart de siècle à Angers.
D'accord. Donc, l'arrivée à Angers s'est faite de quelle manière? Comment? Par opportunité professionnelle?
L'arrivée à Angers était une opportunité professionnelle. L'ESCAM a fait une offre intéressante, stimulante, internationalisée, une école provinciale sympathique, mais en faire quelque chose qui tient la route sur le plan international, qui est capable d'accueillir un grand nombre d'étudiants d'échange pour aussi offrir à ses propres étudiants des possibilités d'expatriation. C'était un beau projet. J'ai fait ça pendant 5 ans avant de me recentrer sur l'obtention d'accréditation internationale et bien sûr l'enseignement et la recherche qui restent le cœur du métier.
Donc, l'enseignement et la recherche, vos travaux et ce goût pour le football dont on a parlé au début, vous reliez tout ça et quel est un petit peu l'angle, le thème des recherches que vous avez menées autour de la sociologie et du football et du rôle élargi du football dans la société ?
Alors, je suis venu à la recherche relativement tardivement. Il y a eu les premières études en Allemagne qui étaient donc littéraires et linguistiques. Je me suis installé en France, je suis tombé par hasard dans l'enseignement supérieur et j'ai fini par comprendre que si je voulais y rester, il me fallait une assurance vie académique et c'est le doctorat. Et donc, j'ai eu l'opportunité d'engager un doctorat en sociologie à l'Université de Nantes. Quitte à faire un travail qui occupe tous les week-ends et les vacances pendant 5 ans, Autant le faire sur un sujet qui ne soit pas trop barbant. Et donc, j'ai décidé de travailler sur les multiples dimensions politiques, culturelles, historiques, économiques du football international. Et donc, par la suite, j'ai poursuivi dans ce travail à continuer à explorer ce qu'il fait avec nous, ce jeu particulier, pourquoi nous réagissons comme nous le faisons, comment il pénètre la société, quel est son rôle et sa responsabilité aussi sociale. Donc tout ça, c'est des sujets que j'ai poursuivis avec un grand intérêt dans de nombreux projets, notamment de type européen, donc transnationaux, qui ont été très enrichissants sur le plan intellectuel et aussi humain.
Oui, on adore le jeu, la compétition, le haut niveau, mais on aime beaucoup s'intéresser aussi à d'autres impacts du football au-delà de ces aspects compétitifs. Vous avez mené, je crois, un projet sur le rôle du football dans l'intégration au sein de l'Europe, l'intégration des êtres humains. Quelle forme ça a prise ? Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu de ce projet-là de recherche ?
Alors, ça aussi, ça prend des facettes multiples. Il y a donc le caractère de plus en plus européen de l'horizon du football d'élite. Si on ne se qualifie pas pour la Ligue des Champions, c'est une catastrophe pour certains clubs. Cette émergence d'un marché européen, l'arrêt Bosman qui a fait circuler les travailleurs du foot dans ce marché, tout ça, c'est assez passionnant. Mais il y a d'autres facettes qui sont tout aussi intéressantes. Les quatre dernières années, par exemple, j'ai fortement contribué à un projet européen sur l'inclusion des réfugiés dans les clubs amateurs. Donc là, on est très loin du haut niveau et tout le monde s'en fout de la Ligue des Champions. C'est dans les quartiers, à la campagne, dans la banlieue, au centre-ville, les petits clubs qui disent il y a le foyer des réfugiés à côté et des gamins de 16-17 ans qui s'ennuient toute la journée en attendant les décisions administratives. Qu'est-ce qu'on va faire d'eux ? Et où le football, finalement, donne une opportunité de faire, pour une fois, un contact amical avec cette société d'accueil qu'on ne connaît que sous la face de la bureaucratie et de l'administration. Qui nécessite pas un grand capital linguistique. On peut s'intégrer très rapidement dans une équipe de foot sans grosse connaissance de langue.
C'est le langage football, justement, voilà, qui fait.
On a exploré ça en Écosse, en Roumanie, en Espagne, un peu partout, et c'est impressionnant. Alors, quand vous en aurez marre de l'élite du foot qui se retrouve systématiquement en quart de finale de la Ligue des Champions et qui brasse l'argent d'État plus ou moins réputable, eh bien, allez voir les grassroots, le football amateur, le football de base qui fait un travail social tout à fait remarquable et qui vous réconcilie avec toutes les, avec toutes les manifestations du football contemporain.
Oui, il faut vraiment aller voir tout ce que prennent en charge les clubs amateurs en matière de lien social pour voir que le football, ce n'est pas que ces excès de haut niveau qu'on nous montre beaucoup. Et la réconciliation, c'est vrai qu'elle s'opère souvent de cette manière.
Oui, il y a cette facette-là, il y a d'autres facettes. On a travaillé aussi dans un autre projet européen sur la diplomatie du sport. Est-ce que l'Union européenne a intérêt à développer une action diplomatique de politique étrangère à l'aide du sport et on a étudié encore une fois tous ces acteurs de la société civile, les assos, les clubs qui collaborent à travers les frontières et en dehors de l'Europe, qui transmettent des valeurs, sont en quelque sorte les ambassadeurs de l'Union européenne avec quelques sous du programme Erasmus, par exemple. On peut faire beaucoup de choses et ils font ça très bien. Donc là aussi, c'était très, très enrichissant. Et encore une fois, c'est la base de la société, ce qu'on appelle la société civile qui fait le boulot.
Alors, il y a un événement qui va relier le football, l'Allemagne, l'Europe dans pas longtemps, au mois de juin, avec le championnat d'Europe des nations. On revient au très haut niveau, voilà, qui capte aussi un peu. Donc, vous avez mené un projet d'édition dans le cadre de cet événement. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu?
Oui, on a décidé avec l'Office franco-allemand de la jeunesse, qui est né en 1963 avec le fameux traité de l'Élysée entre la France et l'Allemagne, et qui s'est engagé donc depuis plus de 60 ans dans l'échange de jeunes, la compréhension interculturelle entre les Français et les Allemands. On s'est engagé avec eux dans l'édition d'un petit ouvrage qui n'existait pas encore, qui est une plongée dans la culture du foot allemand qui est très particulière, qui est vraiment différente d'autres pays. Il est vrai que si la réconciliation, l'amitié franco-allemande est un miracle du XXe siècle, et je pèse mes mots, pour le foot, il y a comme une petite muraille culturelle entre les deux. En France, on aime bien regarder ce qui se passe en Italie, en Angleterre, en Espagne. Et on ne connaît pas trop bien, en fait, comment ça se passe en Allemagne, comment le foot traverse toute la société. Ça paraît bizarre parfois, et donc on a décidé de faire un livre qui sera distribué gratuitement sur place aux Français qui se sont déplacés à l'Euro, mais qui est aussi téléchargeable gratuitement. Sur Internet pour tout un chacun qui s'y intéresse, qui est axé autour des 10 villes hôtes de l'événement et qui raconte l'émergence, le développement, le présent de cette culture foot dans chacune de ces villes qui donne une idée de ce qu'il représente au niveau local. Et entre ces portraits de villes, nous avons des articles sur l'état du foot allemand dans son ensemble, tout ce que vous n'avez jamais voulu savoir vous est imposé par ce petit ouvrage et je pense que c'est très réussi. Je suis très content, on a eu des très bons contributeurs. On a eu une magnifique interview avec Philippe Lamb qui s'est donné un mal fou à répondre à nos questions. On a deux très chaleureux mots d'accueil de Dieter Müller et Klaus Allofs qui ont fait le bonheur de Marseille et de Bordeaux dans les années 80. Donc tout ça, c'est charmant. Et on a réussi aussi à avoir un ton à travers cet ouvrage qui est un ton qui n'est pas condescendant. On va vous expliquer. Ce n'est pas comme ça. C'est des gens qui adorent le foot qui parlent à des gens qui adorent le foot. Sauf qu'ils le font en français pour une fois.
Et avec l'idée de donner aussi la place du foot dans la culture de la ville, dans son développement, c'est un peu ça aussi.
Absolument, l'idée. Absolument. Et les chiffres parlent pour elles. Si vous avez la deuxième division allemande qui a une moyenne de spectateurs plus élevée que la première française, ça veut dire quelque chose sur la manière dont ce jeu est ancré très très fortement dans le quotidien d'un grand, grand nombre d'Allemands. Oui.
Alors c'est pareil, on n'a pas une heure encore, mais cette spécificité-là, cet ancrage-là, à quoi il tient? C'est quoi sa spécificité que nous, on ignore en France et qui est différente, totalement différente de celle de la France?
Alors, le fonctionnement du football pour créer, confirmer, consolider des identités locales, est le même en France ou en Allemagne. Il y a une grosse différence dans l'évolution historique, dans la disponibilité de grands centres urbains qui ont pu développer cette culture, la capacité des villes à construire des infrastructures de grande qualité qui permettent aussi une massification de cette culture au cours des décennies. Ça, c'est différent. Hein. Il y a un réseau différent. Et puis, il y a toujours l'histoire avec le grand H. Il y a ce miracle de Berne de 1954 qui a permis au football de se faire une place cimentée dans la mémoire collective des Allemands. Et puis ensuite, l'histoire de la Bundesliga, de la Nationalmannschaft, c'est quelque chose qui nous accompagne, qui rythme nos vies. C'est très, très émotif le football en Allemagne. Et, entre parenthèses, il n'a pas eu la concurrence du rugby non plus, ce qui confirme aussi pourquoi il a cette place hyper dominante dans le paysage sportif.
Je reviens à la littérature dont on parlait aussi, et le miracle de Berne. Il y a un livre magnifique d'un auteur allemand dont vous allez me rappeler le nom, mais le titre du livre, c'est « Le dimanche où je suis devenu champion du monde ». C'est la traduction en
oui,
français.
C'est un très joli livre, c'est Friedrich Karl Delius voilà. qui a écrit ça. Moi, je me suis toujours amusé qu'il abrégeait ses deux prénoms en FC. J'ai trouvé ça phénoménal pour quelqu'un qui écrit sur le foot.
Je voulais vous poser aussi quelques questions un petit peu pour poursuivre un petit peu sur cet Euro. Vous, comment vous allez le vivre, ce championnat d'Europe des Nations qui a lieu en Allemagne et qui va mettre aux prises un peu à la fois l'équipe de France, l'équipe d'Allemagne, deux nations qui vous sont chères?
Alors déjà, c'est très pratique d'avoir deux nations qui me sont chères dans le tournoi. Il y en a toujours une qui va loin, donc c'est très pratique. Je vais vivre le championnat d'Europe sur le canapé. Au mois de juin, je ne vais pas me déplacer en Allemagne. J'ai du travail ici. Donc, je vais suivre très banalement. J'ai trois invitations à prononcer des interventions publiques que je vais honorer. Et puis, ça sera ça. Maintenant, aujourd'hui, avec des méga événements de ce type, on est surtout déjà soulagé si ça se passe bien. Donc, je voudrais que ça se passe bien pour tout le monde, comme les JO aussi directement dans la foulée. Je pense que c'est important qu'on ait un été un peu franco-allemand du sport. Ça fait du bien que ça se passe dans deux démocraties plutôt sympas quand même. Malgré tout, on n'a pas besoin toujours d'avoir nos grandes compétitions qui nous tiennent à cœur depuis l'enfance dans des pays et à des moments un peu, disons, inhabituels pour rester très gentil et poli et diplomatique. Donc, c'est bien, c'est bien. C'est un bel été de sport et comme le foot ne fera qu'à sa tête, évidemment, je donne aucun pronostic par rapport à l'Euro, c'est sûr et certain. Mais j'aimerais bien que l'équipe d'Allemagne ne se ridiculise pas. Je crois que ça serait dommage chez elle. Donc, j'aimerais bien qu'ils aillent au moins en quart de finale et plus si affinité.
Et dernière question, Albrecht, avant de se quitter. Quand est prévu votre prochain voyage en Allemagne, votre prochain retour peut-être à Stuttgart ou dans votre petit village
dont
j'arriverai pas à reprononcer le nom.
Alors donc, la ville, je rappelle, elle n'est pas souvent mentionnée, Esslingen am Neckar, super. Que des bons souvenirs à cette ville. Ça va se faire. J'ai 5 frères et sœurs qui habitent autour de Stuttgart. Et donc, si ce n'est pas cet été, ça sera à Noël ou l'année prochaine.
Merci beaucoup, Albrecht, de votre visite.
Merci à vous pour l'invitation.
Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission et à bientôt.